Bonjour à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel et voici maintenant l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour aussi Prune Satokaris qui va nous faire une lecture biblique.
Bonjour.
Aujourd'hui nous allons parler de la venue du Christ, promise. Dans les lectures, nous allons commencer par une épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 11 à 18.
Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour devant pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever les péchés, lui, par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis en soient réduits à lui servir de marchepied. Par une offrande unique, en effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ce qu'il sanctifie. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste lui aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance pour laquelle je m'allierai avec eux après ces jours-là », le Seigneur a déclaré « En donnant mes lois, c'est dans leur cœur et dans leurs pensées que je les inscrirai. Et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. Or, là où il y a eu pardon, on ne fait plus d'offrande pour le péché. »
Je vais maintenant vous lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13, les versets 24 à 37. « Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors il enverra les anges et des quatre vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils. Personne sinon le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Le soir, ou au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.
Et la troisième lecture d'aujourd'hui se situe dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 1 à 14.
J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné, dans l'Esprit Saint, ses instructions aux apôtres, qu'il avait choisi, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avait posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous unanimes étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Le texte du jour que nous venons d'entendre dans l'évangile de Marc au chapitre 13 et le premier chapitre des Actes des Apôtres nous place dans le temps de l'attente. Attente du royaume des cieux, du royaume de Dieu. C'est le thème fondamental de la prédication de Jésus. Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous.
Rappelez-vous la parabole des talents. La parabole des 10 vierges qui nous place entre le déjà et le pas encore. Le règne de Dieu a été inauguré en Jésus avec déjà des signes révélateurs du royaume, des miracles, des guérisons, des libérations, l'évangile annoncé aux pauvres. La mort et la résurrection de Jésus sont des signes révélateurs du royaume commencé déjà.
Mais nous sommes dans le temps de l'attente, entre la résurrection de Jésus et son retour, ce qu'on appelle sa parousie. Il nous faut attendre. Attendre avec la patience de celui qui espère et l'impatience de celui qui aime.
Attendre le royaume qui mûrit lentement, comme le grain de blé qui meurt, mais portera beaucoup de fruits à l'été, de la moisson, que déjà annoncent les tendres rameaux et les feuilles du figuier de Marc en chapitre 13. N'oublions pas que le figuier symbolise l'abondance, mais aussi la synagogue, la science religieuse, avec aussi un sens initiatique. Adam et Ève, se voyant nus, utilisent des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Dans le livre des Rois, les arbres demandent aux figuiers de régner sur eux. Quand Jésus maudit le figuier desséché, il maudit la science mauvaise des pharisiens. En Asie, le figuier symbolise l'immortalité. Mais il faut du temps pour rassembler tous les épis de blé, pour inviter tous les peuples de la terre au grand festin du royaume.
Après la ruine de Jérusalem en 70, beaucoup de disciples et de chrétiens se sont affolés, en subissant de dures persécutions et en ne voyant pas venir la fin des temps annoncée par Jésus, dans ce chapitre 13 de l'évangile de Marc au verset 30. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Mais Jésus rajoute, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père.
C'est donc très clair, personne, pas même Jésus, ne connaît le jour et l'heure de l'avènement du Fils de l'homme. Dieu seul le sait. C'est donc tout de suite qu'il faut être prêt. Demain, il sera peut-être trop tard, comme pour les cinq vierges insensées. À la question des disciples, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus répond par des paraboles.
« Une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Tenez bon, résistez, n'ayez pas peur. Sachez que les persécutions et les douleurs sont en quelque sorte les douleurs d'enfantement d'un monde nouveau, jusqu'à la victoire définitive du royaume. »
Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Nous écouterons au cours de l'émission des mélodies d'église du CD de la Cause avec deux extraits de Bach, puis un de Handel. Et enfin, nous écouterons le chant du veilleur du chanteur Noël Colombier. Depuis le message de Jésus, et aujourd'hui encore, le royaume est déjà là, en quelque sorte en formation. Et notre mission de chrétien est d'y œuvrer. Et ce, quelle que soit l'heure où nous nous mettons à la tâche, même à la 11e heure.
Que la moisson du monde est grande, dit le cantique. Suscite, ô Dieu, des moissonneurs. La tâche est en effet immense, démesurée, impossible pour l'homme, dans un monde de folie apocalyptique. Matthieu nous dit dans son évangile au chapitre 24, au verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Douleur de l'enfantement du royaume, formidable espérance de l'histoire des hommes. Nous sommes nous-mêmes témoins et signes du royaume, témoins de la présence du ressuscité qui habite en nous. Jésus ressuscité est absent par l'ascension, mais présent par le Saint-Esprit qui nous habite depuis la Pentecôte. Nous sommes faibles et loin de Dieu, mais par le Saint-Esprit, nous sommes forts et tout près de Dieu, et prêts à nous mettre à l'ouvrage, riches d'une puissance et témoins d'un message apporté jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais attention, la présence du Saint-Esprit ne fait pas de nous des chrétiens parfaits, ni des surhommes. Elle nous aide à veiller dans le temps de l'absence de Jésus et elle nous aide à devenir des adultes responsables, bâtisseurs du royaume, dans la foi et dans l'espérance.
Il ne s'agit surtout pas de devenir des contemplatifs à regarder le ciel sans se consoler du départ du Maître. L'important, ce n'est pas les signes, c'est ce que nous faisons. C'est la façon que nous choisirons pour faire fructifier les talents confiés par le Maître, notre vie. Enterrerons-nous ces talents ?
En fait, Jésus préparait ses disciples à ne pas se préparer, mais à avoir confiance, à placer leur foi en lui. Ne te prépare pas, mais compte sur le Seigneur. Je viendrai à toi, dit Jésus. Jamais je ne te laisserai orphelin. Je t'enverrai mon esprit. C'est lui qui te convaincra intérieurement que je suis ressuscité, que je suis vivant. C'est lui qui t'enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. C'est lui qui te rappellera mes paroles et me glorifiera. Oui, le Saint-Esprit s'emparera de toi, te rendra fort. Ne te prépare pas, mais compte sur le Seigneur.
Jésus est un réaliste. Il voit la réalité telle qu'elle est et imagine le futur tel qu'il risque d'être. Et c'est pourquoi il nous encourage, chacun d'entre nous, à augmenter notre confiance en lui, à bien inscrire dans nos cœurs que rien, ni la vie, la mort, la souffrance, la persécution, l'angoisse, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Tu es entre les mains de Dieu. Les seules personnes que tu es à craindre, ce ne sont pas ceux qui peuvent tuer ton corps, mais la seule personne que tu es à craindre, c'est Dieu.
Pour conclure, je dirai le dernier mot de la parabole des 10 vierges. Veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le verbe veiller en grec, c'est grégorein. D'où vient le nom de Grégoire, le veilleur, l'éveillé.
Il faut veiller, c'est-à-dire tenir la lampe prête, remplie d'huile, allumée pour s'éclairer et éclairer les autres, pour illuminer. Il n'est pas question de baisser les bras, de se décourager, d'avoir peur, c'est-à-dire de manquer de foi. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Dit Jésus au fort de la tempête à ses disciples.
Dans la tempête de notre monde en folie, il nous faut tenir la lampe allumée, comme le phare qui redonne courage aux marins en détresse. Il nous faut sans cesse faire réserve d'huile. Il nous faut garder les yeux tournés vers, c'est-à-dire nous convertir. Nos yeux tournés vers celui qui vient, dans la nuit apocalyptique, au plus fort de la tempête, au plus profond de la nuit. Quand le soleil s'obscurcit, nous dit Marc, quand la lune ne brille plus, quand les étoiles se mettent à tomber du ciel.
Dans ce noir désespoir, il est là. Il vient et nous dit « Notre nuit n'est pas sans lumière. La provision d'huile, c'est notre vigilance, notre fidélité, notre victoire sur la peur. Notre vie des pensées, notre attente, notre prière, notre espérance, notre foi, notre joie, notre écoute des pas de Jésus qui vient. Notre vie est une longue veille d'attente et d'espérance, mais une veille active de chrétien.
Dès que les rameaux du figuier deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à votre porte. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père.
Notre émission s'achève maintenant. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt. Et je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres.
Il est minuit, docteur Schweitzer. Il est minuit, tu ne dors pas. Ta musique, comme une prière, chante et s'envole sous tes doigts pour se poser sur les souffrances. Douce et bonne comme la présence de celui qui t'a entraîné jusqu'ici à l'embaréner. Il est minuit, mais toi tu veilles pour que le monde se réveille en écoutant du fond du cœur monter la chanson du veilleur. Folleraud, ardent témoin de la charité, lorsque tu te fais le héros de ces gens mutilés et rongés par la maladie insatiable qui chaque jour se met à table pendant que le monde s'endort et dort en paix car il ignore. Il est minuit, mais toi tu veilles pour que le monde se réveille en écoutant du fond du cœur monter la chanson du veilleur. Dans la
Je veillerai jusqu'à
Vincent de Paul, Mère Teresa, quand tout n'est que mort et misère, relève un enfant dans leurs bras. Il est minuit quand on torture, quand on meurt de faim quelque part, quand une brutale dictature assassine même l'espoir. Il est minuit, mais parce qu'ils veillent, voilà que des gens se réveillent et qu'ils entendent au fond du cœur monter la chanson du veilleur. Je veux.